mais ça, je le garde pour la toute fin. Donc, prions et après ça, je lis avec vous. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cet instant que tu nous donnes. Une matinée que tu connaissais, que tu avais prévue, que tu avais planifiée, pour laquelle tu avais la parole dont nous avions, ou nous aurions besoin. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons simplement nous présenter devant toi comme des vases qui sont vides et recevoir pleinement ce que tu as pour nous. Nous savons que ta parole est vraie, véridique, véritable. Quelle est la source d'instruction pour notre âme, notre esprit? Quelle est la source d'instruction pour notre comportement de tous les jours, pour la manière dont, quant à la manière dont nous vivons, où nous menons notre vie. Nous prions, Seigneur, que tu trouves en nous une oreille qui t'est attentive, un cœur qui t'est pleinement disposé et des vies qui ont été remises totalement entre tes mains pour que tu fasses de nous les hommes, les femmes que tu désires que l'on soit, et les vases qui serviront à ta gloire et simplement qu'à ta gloire. Alors ce matin, Seigneur, ouvre notre intelligence, ouvre notre entendement et permets-nous pleinement de recevoir ce que tu avais préparé pour nous. J'appelle ta bénédiction sur ma sœur, sur mon frère, sur tous ceux qui nous regardent ici, autour de Montréal et ceux qui se joignent à nous au loin. Nous prions, Seigneur, que ta grâce leur soit accordée et que ta bénédiction reste et demeure sur eux. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, je relis pour vous le texte qu'on a débuté hier, et je vais aller jusqu'au verset 3, parce que Dieu voulant, on va essayer d'approfondir ces notions-là tout au long de cette semaine. Donc, Jean, 1er Jean, chapitre 3, donc la lettre de Jean, la première épître au chapitre 3, et le verset 1 nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. » Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Alors je reprends le texte. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Alors ce matin, je vais m'arrêter sur le tout premier mot de ce verset, et qui hier constituait notre conclusion, brève conclusion, où je vous disais que j'avais davantage à dire sur ce mot, mais qu'on le ferait durant cette semaine. Donc, le mot en question, c'est « voyez ». Le verbe « voir » à l'impératif deuxième personne du pluriel. « Voyez ». « Voyez ». Le terme grec « eido », « e-i-d-o », je répète, « e-i-d-o », pour ceux qui prennent des notes, et qui vont réviser par la suite. Donc, le verbe « voir ». On a dit ici, durant la journée d'hier, on a parlé essentiellement de l'amour merveilleux, incommensurable que Dieu avait pour nous. Et le fait de retourner à cet amour, de ne pas se laisser distraire par différentes choses, par différentes problématiques, ou voire même par différents sujets qu'on pourrait avoir théologiquement, mais de savoir faire cet exercice qui nous ramène constamment à l'amour que Dieu a manifesté envers nous. Amour qu'il a manifesté lorsque nous étions encore pécheurs, amour qu'il a manifesté même avant ça, lorsque nous n'existions pas. Déjà l'amour de Christ, l'amour de Dieu se manifestait dans le sens où il avait pensé, il avait préparé et il avait appointé un sauveur pour l'humanité qu'il viendrait un jour à créer et qui un jour se détournerait des voies de Dieu et qui un jour verrait quelqu'un comme moi, comme toi, comme notre génération venir au monde déjà d'avance. Notre Père Céleste nous aimait à un tel point qu'il avait pourvu à un sauveur, à une voie de salut parfaite, efficace totalement pour toi, pour moi. Et ici, Jean va dire à l'Église, voyez, voyez quel amour. C'est comme si, et je le disais hier, c'est comme si Jean venait nous prendre par les épaules et voulait secouer son auditoire ou ses lecteurs, puisque c'était une lettre que les gens allaient lire à plusieurs reprises. C'était comme s'il voulait les secouer pour leur dire, mais est-ce que vous réalisez combien grand, combien hors norme est l'amour qui a été manifesté envers vous? Et dans ce terme, voyez, si en français ça représente simplement de regarder, de jeter un regard sur une chose, en grec le terme eido a plus de connotations. Et c'est intéressant tout le temps de s'arrêter à l'étymologie des termes, de s'arrêter à la signification des termes, non seulement dans un sens contemporain où on peut en tirer une explication, mais aussi retourner dans le sens plus antique, plus ancien que le terme pouvait avoir, notamment à l'époque où il a été prononcé ou à l'époque où ce terme a été écrit dans le contexte qui était celui des Saintes Écritures, donc à l'époque de Jean. Et ici, Eido va avoir cinq connotations différentes, cinq ordres d'idées, cinq orientations qu'il englobait par un seul mot et qui seront pour nous ce matin la base de notre réflexion. Donc, Eido, voir, veut tout d'abord donner comme idée le fait de percevoir une chose. Lorsque je vois un objet, c'est que j'arrive à délimiter par le regard ce qu'est l'objet. Je peux ne pas comprendre à quoi sert l'objet, mais je vois l'objet. Et la première chose pour nous ce matin, c'est d'être capable de percevoir l'amour de Dieu. Être capable de percevoir l'amour de Dieu. Dans les versets qui suivent, on dit que les gens peut-être ne nous connaîtront pas ou ne nous reconnaîtront pas du fait qu'ils n'auront eux-mêmes pas connu Dieu. Et ici, la pensée, c'est le fait d'être capable de voir ce que Dieu fait pour nous. Et c'est parfois un exercice complexe, notamment lorsqu'on ne connaît pas les Saintes Écritures, lorsqu'on ne prête pas attention à ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu est la révélation même de notre Seigneur. C'est la révélation parfaite et complète de notre Dieu. C'est la révélation par laquelle on assoit notre foi et par laquelle on conduit ou on mène notre existence. Le grand malheur pour l'Église d'aujourd'hui, contrairement peut-être à ce qui s'est passé à certaines époques de l'histoire de l'Église, il semble qu'à un moment donné, on est rentré dans une espèce de paresse intellectuelle, dans une espèce de paresse didactique, donc dans le fait de l'apprentissage, et on est devenu lent à lire, on est devenu paresseux à écouter, paresseux à étudier. Et le grand malheur, c'est que moins j'étudie la parole de Dieu, moins je suis capable de percevoir Dieu. Moins j'étudie la parole de Dieu, moins je peux connaître le Dieu que la parole ou que la Bible nous enseigne. Donc, il est important de retourner aux Écritures afin d'étudier et de mieux connaître notre Seigneur. La première façon à travers laquelle le Seigneur se révèle, c'est à travers son logos, donc sa parole révélée, sa parole que nous avons sous format écrit aujourd'hui, qu'on appelle la Bible. Le meilleur moyen de connaître Dieu, c'est effectivement de lire le texte qui le concerne, de lire la parole qu'il a lui-même donnée à l'homme, afin d'être capable de percevoir Dieu. Et ce faisant, si j'arrive à percevoir Dieu, si j'arrive à comprendre, ne serait-ce que que minimalement à travers les Écritures, je serais par le fait même à même de comprendre aussi, minimalement soit-il, l'amour de Dieu. Donc il est important de percevoir l'amour de Dieu, que ce soit par les Écritures, donc voir comment toute la parole de Dieu mène à cet acte d'amour qui a été le point central de l'histoire de l'humanité avec la mort de Jésus à la croix. Tout nous mène là dans la parole de Dieu, tout nous ramène là dans la parole de Dieu. Depuis le premier verset jusqu'à son ultime verset, la parole de Dieu a comme emphase et comme angle de réflexion principal la mort du Messie, la mort du Sauveur à la croix pour le pardon des péchés et pour le salut de quiconque croirait en lui. Donc, pour percevoir l'amour de Dieu, il nous faut en même temps comprendre comment cet amour s'est manifesté et la Bible nous l'explique. De surcroît à ça, il nous faut être capable aussi de percevoir comment Dieu intervient de façon quotidienne dans nos vies. Et parfois, les choses demandent une pause, demandent une réflexion et parfois même la compréhension de l'amour de Dieu nous vient après coup. Pendant que j'étais dans la période de maladie, pendant que je passais à travers la tempête et à travers la vallée de l'ombre de la mort, j'étais conscient que Dieu était avec moi. Je sentais sa présence autour de moi. Je sentais surtout sa paix qu'il m'accordait, une paix qui était irrationnelle, une paix qui dépassait mon entendement, qui dépassait ma logique. Donc, sachant que j'étais tellement tranquille, je savais donc que Dieu était avec moi et c'était une façon de percevoir son amour. Mais avec le temps qui a passé par la suite, je me suis mieux rendu compte, la gravité de la maladie qui m'affectait, du point avancé dans lequel la maladie m'avait amené, et de surcroît cela, en parlant avec d'autres patients, en parlant avec d'autres personnes, soit que l'hôpital, avec lesquelles l'hôpital m'avait amené à échanger, ou que ce soit avec des patients que certains amis avaient connectés avec moi. Donc en parlant avec eux, je me suis rendu compte non seulement de l'ampleur des traitements qui m'étaient donnés, mais aussi de comment Dieu m'avait permis de passer à travers tout cela beaucoup plus facilement que d'autres personnes. Alors, ce faisant, avec le temps, avec du recul, j'arrivais effectivement à percevoir l'amour de Dieu dans tout cela. Alors, il est important pour nous de prendre ces pauses et d'être capable effectivement d'examiner, de sonder les Écritures, mais aussi examiner et sonder nos vies pour remarquer, pour observer et percevoir comment l'amour de Dieu s'est manifesté. Donc, premier point, percevoir. Deuxième point, expérimenter l'amour de Dieu. C'est une chose de pouvoir le percevoir, de pouvoir le regarder, mais on peut regarder une chose et on peut percevoir une chose de loin. J'ai mon cellulaire ici dans la main, il y a quelques instants, il était posé, je pouvais percevoir sa forme, je pouvais percevoir de loin de quoi il avait l'air. Mais en l'ayant maintenant dans ma main, je peux expérimenter ce cellulaire. Je pourrais aller me promener, voir de quoi il est fait, quelles sont les applications, quelles sont les options qui sont sur ce téléphone, et voir même l'utiliser pour appeler quelqu'un ou pour écrire à quelqu'un ou pour communiquer avec quelqu'un. Donc il y a une différence entre percevoir, qui était notre premier point, et deuxièmement, expérimenter l'amour de Dieu. Et expérimenter l'amour de Dieu dans son point ultime, c'est aussi expérimenter le salut que Christ apporte à l'humanité. On peut regarder de loin le salut. Je peux regarder à la période de Pâques tout un tas de films qui relatent la passion de Christ, donc la mort de Christ au calvaire, qui est la façon dont un Dieu a apporté le salut à l'humanité. Mais ce n'est pas parce que je regarde et que je sais comment ce salut a été apporté à l'humanité que je l'ai pour autant expérimenté. La Bible nous dit que celui qui croira et qui confessera de sa bouche que Jésus est le Seigneur et le Sauveur sera sauvé. Donc il y a une différence entre percevoir et expérimenter ce salut, entre percevoir comment l'amour de Dieu s'est manifesté à travers la mort de Jésus et faire de cet amour, faire cet amour nôtre ou sien. Donc expérimenter l'amour de Dieu dans le pardon de mes péchés. Et ça se fait comment? Ça se fait en s'approchant de lui et en reconnaissant qu'effectivement nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur et en reconnaissant que ce sauveur est uniquement et seulement Christ le Messie, Christ le Seigneur, Christ le sauveur de l'humanité, mort pour mon péché, mort pour ton péché et mort pour notre salut, et lui confier le restant de notre existence. Parce que si on dit qu'il est le Seigneur, ben Seigneur veut dire qu'il dirige. Et il dirige quoi? Il dirige effectivement la vie que nous lui confions, la vie que nous lui donnons, notre existence que nous remettons entre ses mains pour qu'il nous conduise pas à pas. Alors voici comment expérimenter le niveau le plus grandiose de l'amour de Dieu. Certains passent par des moments difficiles, parfois par des maladies, et je peux parler de ces cas-là parce que j'ai moi-même traversé la maladie, et la maladie sérieuse. On ne parle pas d'une petite grippe, là. On parle d'une maladie qui menaçait ma vie et dont les médecins avaient peu espoir. Donc, c'est une chose d'expérimenter l'amour de Dieu quant à la maladie, mais je pourrais être guéri et toujours être condamné pour l'éternité. Alors, le miracle le plus grandiose et le plus merveilleux, quoi qu'en dise qui que ce soit, le miracle le plus merveilleux qui peut se produire dans la vie d'un homme, c'est celui qui était pécheur et qui devient enfant de Dieu à travers la mort de Jésus à la croix. Donc, percevoir l'amour de Dieu, expérimenter l'amour de Dieu, mais aussi prêter attention à l'amour de Dieu. Prêter attention à l'amour de Dieu. C'est trop embêtant lorsque nous avons de l'affection envers quelqu'un et nous témoignons cette affection envers quelqu'un et la personne reste de marbre. La personne reste froide à nos attentions. Lorsque nous voulons prendre soin de quelqu'un parce que cette personne nous est importante, cette personne nous est chère et que cette personne reste complètement glacée par rapport à notre approche, par rapport à l'acte de bienveillance qu'on peut poser à leur égard. Alors, imaginez, Dieu nous donne, à travers le sacrifice de Jésus, l'expérience du plus grandiose des amours. Et nous avons une réponse à lui donner. Et on a une attention à lui prêter. Certains d'entre nous, on va s'exciter pour un tas de choses dans la parole de Dieu, pour des choses qu'on trouve croustillantes, pour des choses qu'on trouve excitantes. On essaie de débattre théologiquement. Et je ne dis pas que la théologie est une mauvaise chose. J'ai moi-même étudié la théologie. Je continue à étudier en théologie. J'enseigne moi-même, des bases de fondements théologiques. Mais ça serait un malheur de ne mettre son attention que sur ces choses et d'en oublier l'important qui est la mort de Jésus à la croix. Comme je disais tout à l'heure, tout doit nous ramener à cette croix dans la parole de Dieu. Et toute notre théologie doit à un moment donné être ramenée dans la visée de la mort de Jésus à la croix. C'est le point central de toute l'histoire de l'humanité. C'est le point central de ton histoire. C'est le point central de mon histoire. En fait, ton éternité et mon éternité vont être déterminées par ce que je fais de cette histoire de la mort de Jésus, par l'attention que je lui donne. Est-ce que ça devient tout simplement un fait futile? Parce qu'on l'a vu dans 36 productions d'Hollywood, parce qu'on l'a lu depuis notre tendre enfance à Noël, à Pâques et entre les deux? Est-ce que c'est devenu tellement usuel pour nous que ça en perd toute l'importance que ce fait mémorable est supposé susciter? Donc, quelle est l'attention que tu prêtes? Quelle est l'attention que tu donnes à l'amour de Dieu? Est-ce que tu réfléchis encore en te disant, mais Seigneur, je n'étais pas digne d'un tel amour et je m'en émerveille encore? Ou tu as des choses plus importantes, plus sages, plus intellectuellement demandantes et attrayantes à réfléchir? Regarde, il n'y a pas une chose plus importante dans ta vie que ce qui concerne ton avenir éternel. Et cela, ça passe par l'attention que tu donnes à Christ, centre et exposition publique de l'amour de Dieu. Donc percevoir, expérimenter, prêter attention, mais aussi prendre soin de l'amour de Dieu, prendre soin de cet amour qui est manifesté envers nous, non seulement y prêter attention, mais s'assurer que tout au long de mon existence, je continue à glorifier et à m'émerveiller face à cet amour. J'ai eu plusieurs fois l'occasion depuis le début de la pandémie, depuis le début de nos bénédictions matinales et même lors des prédications du dimanche, de vous rappeler que nous ne sommes que des graciés. Nous sommes des gens qui avons bénéficié de la grâce de Dieu. Si je suis sauvé aujourd'hui, si je peux prétendre à l'éternité dans la présence de Dieu, c'est parce que j'ai été gracié. Et être gracié ne veut pas dire que je ne suis pas coupable. Être gracié veut dire que, en dépit du crime qui m'accablait, en dépit de la juste culpabilité qui tombait sur mes épaules, en dépit de la condamnation qui était prononcée sur moi, Christ vient et dit, en dépit de tout cela, je lui accorde ma grâce parce qu'il m'a reconnu comme sauveur et Seigneur. Mais ça fait simplement que malgré mon péché, malgré ma condamnation, je ne suis plus appelé à la vie éternelle sans Dieu. Donc pour l'éternité, je serai un gracié. Je suis un gracié depuis la première journée où j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Je suis un gracié depuis la première journée où j'ai fait de Jésus mon Seigneur et mon Sauveur. Mais pour le restant de l'éternité, je serai encore un gracié. Et quand quelqu'un reçoit la grâce d'une autorité légale, d'une autorité publique, d'une autorité gouvernementale, cette personne est redevable envers cette autorité pour les restants de son existence. C'est trop malheureux de reconnaître à un moment donné que nous sommes graciés, puis après ça, de vivre comme si les choses nous étaient dues. De reconnaître au début de notre marche chrétienne que le salut nous est venu par la grâce de Dieu, et après ça, vivre auprès du Seigneur comme s'il nous devait quoi que ce soit. Dieu nous aime, mais nous ne devons pas prendre son amour pour acquis. La grâce de Dieu est merveilleuse, mais nous ne devons pas prendre sa grâce pour acquise. Nous devons prendre soin de cela et nous rappeler et remémorer et témoigner à tous que nous avons été nous aussi graciés comme tout pécheur qui vient à Dieu. Et ça, c'est prendre soin de l'amour de Dieu. C'est se rappeler à chaque jour, de se rappeler en chaque saison, de se rappeler quotidiennement que nous ne sommes que le fruit de la grâce de Christ envers nous. Et enfin, face à l'amour, dans Eido, on parlait donc de percevoir, d'expérimenter, de prêter attention, de prendre soin. Mais dernier point qui est aussi mentionné dans la connotation de Eido, c'est savoir quoi faire face à cet amour. Quelle va être ta réponse par rapport à l'amour de Dieu? Tout d'abord, est-ce que tu reçois cet amour dans le sens où je suis pécheur et je reçois le salut que Christ me donne? Ça, c'est la première chose. Mais une fois que tu es passé au-delà de l'étape du salut, une fois que tu commences ta marche avec Dieu, comment tu peux continuer à répondre à cet amour? Comment tu peux continuer à offrir une réponse qui est justifiée, adéquate face à l'amour de Dieu? Et on s'entend, cet amour est si merveilleux que même toutes les actions que je pourrais poser de ce côté-ci de l'éternité ne suffiront pas pour le remercier et lui rendre grâce, et tout ce que je pourrais faire pour le restant de l'éternité ne suffira pas non plus pour justifier et pour remercier et pour être équitable dans notre réponse envers Dieu quant à son amour. Mais voici au verset 3, c'est tout petit ce verset, mais je crois qu'il nous donne une bonne réponse par rapport à ce que nous devons offrir ou savoir quoi faire face à l'amour de Dieu. Le verset 3, nous disons, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Voyez, la sanctification, la sainteté vers laquelle la sainteté que nous prônons en tant qu'enfants de Dieu est aussi une réponse à l'amour de Dieu. On sait que notre Dieu est pur. On sait que notre Dieu ne peut pas s'unir avec quelqu'un qui spirituellement a les mains sales, quelqu'un dont le regard n'a pas été purifié, quelqu'un dont les lèvres n'ont pas été purifiées. Ce sont des images qu'on retrouve régulièrement dans la parole de Dieu, que celui qui s'approche du Seigneur doit avoir des mains pures, un cœur innocent, des lèvres qui ne sont pas des lèvres de blasphème. Donc, ma sanctification et le fait de veiller à ma sanctification est aussi une réponse que j'offre à Dieu et que j'offre à l'amour de Dieu. Parce que Dieu m'aime, je veux m'assurer d'être dans un état qui lui est agréable et qui l'honore. Lorsque nous représentons une équipe sportive, lorsque des sportifs professionnels ont fini un match, avez-vous remarqué que lorsqu'on les retrouve par la suite à la sortie du vestiaire, lorsqu'ils vont monter dans l'autobus qui va éventuellement les amener à l'aéroport ou les amener dans leur autre destination, avez-vous remarqué qu'ils sont toujours habillés très classiques, une veste, un costard, une chemise, une cravate? Pourquoi? Parce qu'il y a un standing à respecter, et plus l'organisation sportive pour laquelle ils compétitionnent est prestigieuse, plus on va avoir des règles très strictes qui vont être imposées aux membres de l'équipe parce qu'ils sont des représentants de cette équipe. Qu'en est-il de moi en tant que croyant, en tant que chrétien? Est-ce que je mène une vie qui représente adéquatement tout l'amour qui m'a été donné par Dieu? Est-ce que je cherche à l'honorer par ma sanctification et par ma recherche de sainteté? Alors voilà ce que nous avions pour nous ce matin. Un simple petit mot, voir, voyez, qui va prendre une portée beaucoup plus grande dans notre vie. Alors j'espère que vous avez été secoué par Jean ce matin. J'espère que vous réalisez combien grand est l'amour de Dieu et combien il est important de veiller à ce que nous offrons à Dieu en réponse à cet amour qu'il a manifesté envers nous. Alors prions, et après ça, on salue quelques personnes et je vous donne les dernières nouvelles. Alors merci Seigneur pour ton amour, effectivement. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de vivre pour toi encore cette journée. Personne d'entre nous ne sait comment cette journée-ci va se conclure. Est-ce que tu nous appelleras dans ta présence dans quelques instants, dans quelques heures? Est-ce que nous aurons encore devant nous quelques mois, quelques années, quelques décennies pour d'autres? C'est toi seul, Seigneur, qui le sais. Mais peu importe le temps qu'il nous reste, peu importe, Seigneur, les jours ou les décennies que nous avons devant nous, nous voulons nous assurer, Seigneur, de bien les vivre et de les vivre d'une manière qui soit honorable pour toi, comme étant une réponse, Seigneur, à cet amour que tu as initialement manifesté envers nous. Alors je prie, Seigneur, que cette mort à la croix ne soit jamais pour moi-même, mais aussi pour ma sœur et mon frère, ne soit jamais ramener qu'à l'état d'un simple détail. Seigneur, que je puisse saisir et me rappeler constamment combien a été grand le prix que tu as payé pour ma vie, pour mon salut. Et que je puisse, Seigneur, honorer, chérir la manifestation de cet amour envers moi, alors que Christ est mort pour mon péché, que Christ est mort en raison de mon péché et pour le salut de mon âme. Alors je prie, Seigneur, que tu ouvres mon entendement, que tu me permettes, Seigneur, de mieux percevoir, de mieux expérimenter, de prêter toute l'attention nécessaire à cet amour, de prendre soin, Seigneur, de celui-ci, et de savoir, Seigneur, y répondre de la meilleure façon qui nous est donnée, soit en menant une vie sanctifiée et en partageant aussi ce même amour avec les personnes qui croisent notre chemin. Alors ce matin, je bénis ma sœur, je bénis mon frère, et que cette journée soit placée sous le contrôle de ta main toute puissante. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas si je peux prendre quelques instants pour saluer des gens qui se sont joints à nous ce matin. Je n'ai pas tout le monde, donc je m'excuse déjà, mais je vois qu'il y a Jean-Gilbert, la sœur Rosanie, on a la sœur Teresa, on a Victor qui est là, on a Denise et Gérard de Sainte-Adèle, on a Marie-Huguette, on a Evelyne, on a Eric, Diana, Rosie, on a Ozanie, on a Maggie, on a Farley, sa maman Marie-Andrée, on a la tante de Daphné, Luce, on a Vanessa, on a Diana, et on a Nias Queen, donc je m'excuse si j'ai mal prononcé. Alors à vous tous, bonjour, et à tous ceux qui nous joignent aussi à travers les connexions qu'on ne voit pas, bonjour à vous aussi. Alors je vous ai annoncé hier, et je le répète, c'est important, à partir d'hier soir, donc à partir de 17h, on a changé les règles au niveau de la zone de Montréal. Montréal est passé en zone orange au niveau de la COVID, et qui fait que si on a réduit tous les rassemblements dans les lieux de culte partout au Québec de 250 personnes maximales à 50 personnes, en zone orange, on a même réduit cela de 50 à 25 personnes. Et pour nous, 25 personnes, ça représente en fait 10 personnes, voire 5 personnes que nous pourrions accueillir au-delà de l'équipe en service. En fait, ça nous prend 15 à 20 personnes pour servir, et si on veut atteindre après ça le 25, il reste très peu de place. Par conséquent, on s'est dit qu'on ne prendra pas d'inscription pour les prochaines assemblées, que dorénavant, les assemblées vont reprendre comme on le faisait il y a un mois et demi, sans public, sans audience, sans congrégation devant nous. On va se limiter à diffuser les réunions par Internet, et les seules personnes qui auront accès à notre bâtiment seront les personnes qui seront en service. Et quand on parle de personnes qui sont en service, c'est ceux qui servent, qui officient le culte, donc les prédicateurs, ceux qui font les annonces, ceux qui dirigent la louange, les musiciens, donc ces personnes-là, et de surcroît à eux, toutes les personnes qui sont là pour l'aspect technique de l'assemblée, donc les gens qui sont à la projection, qui sont à la diffusion sur Internet, donc tous ces aspects techniques seront admis dans le bâtiment. On calcule que on va pas arriver à 25, on va peut-être être autour de 20, mais que ça nous prend ces gens-là, et on va essayer dans les prochains jours de voir comment on peut améliorer même votre expérience à travers les cultes par Internet. Encore une fois, c'est pas l'idéal, c'est pas ce qu'on aurait souhaité, mais c'est ce qui nous est imposé par la situation actuelle. En tant qu'Église, notre position depuis le début a été faisons le mieux qu'on peut malgré tout dans les circonstances. Et je vous félicite et je tiens à souligner comment vous avez été un bel exemple et un appui pour nous dans cette démarche. Vous avez respecté les règles en place. Vous nous avez aidé aussi à respecter les règles émises par le gouvernement. Donc, on veut tout simplement vous féliciter, vous encourager à poursuivre. Donc, à partir de dimanche, les assemblées seront de nouveau en huis clos, donc sans spectateurs dans la salle. Et on vous invite à être branché sur Internet pour suivre les cultes. Pour les gens qui se sont déjà inscrits, ce matin, vous étiez déjà 30, en fait, hier soir, vous étiez déjà 30 à vous être inscrits. Vous avez assurément déjà reçu un message de la part de la direction à travers la sœur Patricia qui vous a écrit ou appelé. Pour les autres, je crois que ma mère va faire quelques appels aussi aujourd'hui pour communiquer avec vous. Donc, je répète, personne à l'église à part l'équipe technique lors de nos assemblées, mais toutes nos assemblées seront diffusées, comme nous le faisons déjà depuis plusieurs mois, sur Internet. Donc, ça sera accessible sur Facebook comme actuellement, ce sera accessible sur YouTube, ce sera accessible sur la page web de l'Église et ce sera accessible à travers le réseau Zoom ou la plateforme Zoom. Alors, on espère que ça ne durera pas trop longtemps, mais on va faire comme on peut avec les circonstances actuelles. Alors encore une fois, merci de prier pour nous. Soyez fidèles à nos rendez-vous et rendez-vous, premier rendez-vous en fait, ce soir avec le pasteur André lors du cours sur l'Apocalypse. Donc ça, c'est un cours qui est donné à 19h sur les différentes plateformes qu'on a dit tout à l'heure. Donc 19h avec le pasteur André. Mercredi soir, le pasteur Sergio vous reçoit aussi pour son étude sur le livre de Marc et l'étude qui s'intitule Servir Dieu en des périodes de défis. Donc, on a des défis devant nous qui viennent de survenir et on va les relever avec brio. Et on se retrouve donc tous les matins avec moi pour la bénédiction matinale, de même que vendredi soir pour notre temps de prière et d'intercession. Donc, si vous avez des frères et des sœurs qui n'étaient pas là hier, qui n'ont pas vu l'enseignement de ce matin, qui n'ont pas vu la vidéo d'hier soir, on vous demande de partager avec eux et avec donc avec nos frères et nos sœurs, comme quoi dorénavant les assemblées se feront en huis clos, sans public dans la salle. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve donc ce soir avec le pasteur André à 19h heure de Montréal et demain pour notre bénédiction matinale du mardi 22 septembre. Alors sur ce, passez une bonne journée, que Dieu vous bénisse. Vous me manquez déjà beaucoup et puis on se revoit demain matin. Soyez bénis.